réplique, l'œuvre d'Annie Ernaux avec Raphaël Léris et Pierre Assouline. Le 6 octobre de cette année, le prix Nobel de littérature était attribué à Annie Ernaux. Le comité de l'Académie suédoise célébrait son courage ainsi que son acuité clinique et ce fut l'occasion pour de nombreux lecteurs de se plonger ou de se replonger dans ses livres qu'on trahirait en les qualifiant de romans. J'ai fait comme tout le monde. Et je voudrais prolonger aujourd'hui cette redécouverte attentive mais partielle avec deux personnalités qui en savent plus long que moi sur ce sujet. Raphaël Léris, journaliste au Monde des Livres, et le romancier et critique littéraire Pierre Assouline. Revenons pour commencer au 6 octobre. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris la nouvelle ? Avez-vous applaudi? Avez-vous fait la grimace? Aviez-vous en tête un ou une candidate qui vous semblait plus légitime? Cette consécration, selon vous, fait-elle du bien à la littérature? Raphaël Léris.
Bonjour.
Bonjour.
Le 6 octobre, j'ai été ravie d'abord parce que je suis toujours assez cocorico, et qu'un prix Nobel français me réjouit, quel qu'il soit, et un prix Nobel de littérature me réjouit aussi. Voilà, c'est un petit côté cocardier que j'ai. De surcroît, c'est une œuvre que je suis, que j'admire, qui me bouleverse, qui est inconfortable à lire, qui je trouve passionnante à plein d'égards. Donc, je ne dirais pas que je n'ai pas été ravie. Après, j'aurais été très heureuse que Salman Rushdie soit salué, évidemment, pour son œuvre et pour son courage et pour ce qu'il venait de vivre. Et beaucoup d'auteurs mériteraient le prix Nobel. Il y a quelque chose de très injuste dans ces récompenses qui viennent saluer à un moment donné tel ou tel auteur. Et ça signifie que pendant un certain temps, les auteurs de tel continent ne le seront plus. Bon, voilà, c'est quelque chose d'arbitraire, mais j'aurais du mal à prétendre que je n'ai pas été très heureuse de voir Annie Ernaux saluée.
Pierre Assouline.
Alors, quant à moi, j'ai été aussi ravi, d'abord effectivement par l'effet cocorico et patriotique, ensuite parce que c'était pas seulement un Français, mais une Française. Et c'était la première Française à être couronnée du prix Nobel, et c'est historique, qu'on le veuille ou non. C'est pas une question de point de vue, c'est un fait historique dans l'histoire littéraire et l'histoire du prix Nobel. Et ensuite, parce que cette œuvre le mérite 100 fois, si ce n'est 1000 fois. Pour moi, il n'y a aucun doute sur la qualité de l'œuvre et surtout sur son rayonnement international. C'est une œuvre qui influence énormément les gens qui l'ont lue. Les femmes, mais pas que les femmes, bien entendu. Sur le moment, alors, à part Annie Ernaux, j'ai été content, contrairement à Raphaël, que ce ne soit pas Salman Rushdie.
Parce que
je pense que ça aurait été la pire chose de couronner l'œuvre de Salman Rushdie, qui est immense, parce qu'il est devenu cette année un martyr. Je pense qu'il fallait le faire avant, il faudra le faire après, mais pas l'année où il a manqué à être assassiné, parce que ça aurait été le couronner pour de mauvaises raisons. L'autre chose, j'ai eu en même temps un regret, parce que je m'intéresse depuis longtemps au prix Nobel, hein, et j'ai été souvent enquêté là-bas, auprès des académiciens suédois. J'ai eu un double regret. Le premier, c'est que, une fois de plus, mais il est mort, Philip Roth n'ait pas été couronné. Ce qui est pour moi la grande tâche et la grande erreur. Il est venu naturellement, mais ça tombe bien. Parce que je pense que ils ont eu 20 ans pour le faire, ils ne l'ont pas fait. Et quand ils pouvaient le faire, ils ont couronné Bob Dylan. On va pas revenir là-dessus.
Ah, d'ailleurs, Philip Roth a souhaité, lorsqu'il a appris la consécration de Bob Dylan, que l'année suivante soit récompensée Peter, Paul et Marie.
Oui, mais ils étaient trois. Et puis, l'autre regret que j'ai eu, mais il est encore temps, c'est qu'il n'ait jamais songé à couronner Milan Kundera.
Oui, deux regrets, mais c'est intéressant parce que vous dites, il est bon qu'ait été récompensée une femme alors qu'on récompense des individus. Mais je vois ce que vous voulez dire.
Oui.
Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que si Philip Roth n'a pas reçu le prix Nobel, il a été le non-lauréat du Nobel oui. pendant 10 à 15 ans.
Oui.
C'est précisément parce qu'il était taxé de misogynie.
Oui, mais...
Et Claire Bloom a écrit un livre sur lui oui. qui a dû également influencer les Nobel. Depuis la parution de Ma vie d'homme, il n'échappe pas à cette accusation qui est une condamnation. De même pour Milan Kundera. Enfin, il y a d'autres raisons dans le cas de Kundera, oui. mais il est vrai que les deux plus grands écrivains contemporains ont été exclus du Nobel pour des raisons idéologiques qui tiennent à leur rapport supposé aux femmes.
Oui, mais les académiciens suédois sont des gens, il ne faut pas oublier, hein, qui lisent très peu de langues étrangères. Si ce n'est pas traduit en suédois, très souvent ils ne lisent pas. Ce sont des gens assez corsetés, assez boutonnés, hein, faut pas oublier, on est en Suède, hein, c'est pas. Et puis ils consultent. À l'Académie Goncourt, on reçoit chaque année, chaque juré, un papier demandant qui vous proposez. Et on voit qu'ils n'en tiennent pas compte. Donc ça sert à rien.
Bon, ils ne lisent que le suédois, alors ce qui fait que je n'ai aucune chance.
Eh ben, oui, écoutez, ça peut s'arranger.
J'essaierai de surmonter cette douleur et j'espère avec vous que Rushdie sera récompensé dans les années qui viennent parce que il a été condamné par une fatwa, il a été victime d'une tentative d'assassinat, il a perdu l'usage d'une main et un œil, mais c'est autre chose qu'un martyr, c'est un grand écrivain, Les Enfants de Minuit et Les Versets Sataniques sont des romans très forts. Mais venons-en à Annie Ernaux. Je n'ai pas été aussi enthousiaste que vous quand j'ai appris cette nouvelle, mais je n'ai pas non plus décidé de faire cette émission pour régler mes comptes. Nous parlerons tout à l'heure des engagements d'Annie Ernaux, mais je voudrais d'abord dire que j'ai été très marqué par ses premiers livres. La Place, paru en 1983, et Une femme, paru en 1987, et je renie pas cette émotion première. Alors je voudrais que, justement, nous parlions de ces deux livres. En quoi vous paraissent-ils importants, Raphaël Leiris ?
Quand on regarde le parcours d'écriture d'Annie Ernaux, La Place, c'est le roman qui l'a fait advenir ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'est son écriture aujourd'hui. C'est le moment où elle renonce à se cacher derrière le roman. C'est le roman également où elle, enfin ce livre, pardon, où elle renonce à toute vision ornementale de la phrase, qui n'était déjà pas particulièrement développée, mais disons où elle théorise ce rapport à l'écriture dite plate, terme qu'elle revendique. Et donc c'est le livre où elle fait en sorte de ne pas se placer en surplomb par rapport au père qu'elle évoque. Donc La Place, c'est le livre du déchirement, de la distance avec son père, puisque ça, elle revient sur le fait qu'elle, la même année, elle a eu le CAPES de lettres et elle a perdu son père. Et c'est dans cette déchirure-là que se crée l'œuvre et qu'elle revient sur le lieu d'où elle vient. Sa honte d'avoir eu honte et cet éloignement et le fait d'écrire parce qu'on n'a plus pu se parler. Et c'est une des grandes beautés pour moi de La Place et de sa grande force.
Pierre Assouline.
La honte, la culpabilité, l'humiliation, ça parle à tout le monde. Donc c'est une œuvre universelle et j'allais dire intemporelle, même si elle est très fixée dans le temps, elle n'est pas figée dans le temps. Donc moi, ça m'a parlé tout de suite, dès que je l'ai lu, et notamment La Place, le rapport au père, bien sûr. Après, j'ai tout lu, hein, mais cela dit, beaucoup de gens ont tout lu d'Annie Ernaux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et puis son livre assez bref. Les années étant le plus long, avec 240 pages. Mais Les années m'a beaucoup marqué aussi, parce que je trouve que c'est un grand livre, pas seulement sur l'époque, sur la France. Et puis, je vais vous dire, ce que je reproche politiquement ou socialement à Annie Ernaux, c'est ce que j'aime dans ses livres, c'est-à-dire la violence. Ce sont des livres d'une très grande violence. Je dirais même qu'il y a de la rage dans ses livres. Ça va au-delà de la violence.
J'écris pour venger ma race.
Alors, on va en reparler, Mais enfin, ne pas oublier quand même que Vengée Marasse, ça vient de Rimbaud. Hein. Elle ne l'a pas inventé.
Non, mais je ne vais pas lui faire grief d'utiliser le mot race, j'en suis pas là quand même.
Mais tout de même, cette rage qui est dans son œuvre, du début à la fin, je trouve qu'il y a une grande cohérence dans ce qu'elle écrit. Et puis une cohérence stylistique, parce que si elle m'a frappé au début...
Elle écrit à l'os, dites-vous, dans vos articles.
Oui, c'est une écriture à l'os, une écriture qu'on dirait économe, qu'on dirait neutre, mais elle n'est pas neutre du tout, surtout pas neutre. Elle est extrêmement engagée. Mais c'est vrai que cette manière de condenser ce côté, elle a un côté palimpseste aussi, mais cette condensation, il y a un effet de réel et un effet de densité dans ce qu'elle écrit, qui est saisissant. Et je connais peu d'écrivains comme ça. C'est vrai que vous pouvez prendre n'importe quelle page de n'importe quel livre d'Annie Ernaux, vous savez que c'est elle. Parce que on reconnaît à quoi un écrivain ? À la sonorité, le son que ça dégage. Et là, ça dégage un son unique dès le premier paragraphe.
Alors, j'ai pensé, en lisant ces livres et en les relisant, et de manière sans doute paradoxale, à la très belle conférence de Barthes. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Dans cette conférence, prononcée au Collège de France, il envisage l'hypothèse d'écrire lui-même un roman. Et il dit « J'espère du roman une sorte de transcendance de l'égotisme dans la mesure où dire ce qu'on aime, c'est témoigner qu'ils n'ont pas vécu et bien souvent souffert pour rien. » Et la place, c'est le père, une femme, c'est la mère, et elle écrit après leur mort, et elle dit ceci dans une femme, « J'écris sur ma mère pour à mon tour la mettre au monde. » Et elle va plus loin encore dans « Je ne suis pas sorti de ma nuit » où elle dit ceci, « Ce n'est pas de la littérature que j'écris, je ne sais pas en faire qu'il ne soit pas cela, des livres, ce désir de sauver, de comprendre, mais de sauver d'abord. » Sauver, c'est-à-dire, oui.
Oui, sauver quoi ?
Sauver d'abord les figures du père et de la mère. Mais j'ajoute à cela, donc c'est une œuvre de piété, alors que pour autant, c'est pas du tout une œuvre sentimentale ou sentimentaliste. Et ce qu'elle exprime également, et de très fort, c'est ce qu'on peut appeler la tragédie des non-héritiers. Ce n'est pas une héritière. Et le non-héritier, c'est celui qui s'élève pour accomplir les vœux de ses parents, mais plus il s'élève, plus il s'éloigne. Se cultiver, c'est se séparer. Et elle utilise à plusieurs reprises, Annie Ernaux, cette expression venue de ses parents, mourir d'ambition. Mourir d'ambition, ça veut dire mourir de douleur d'être séparé, d'être au loin. Elle ne meurt pas d'ambition, mais cette séparation par la culture, elle la vit comme une sorte de trahison et elle témoigne de cette souffrance dans ces deux livres. Raphaël Héris, vous êtes d'accord avec ça ?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Quand vous parliez de sauver quelque chose, elle dit, alors je ne sais plus dans laquelle de ses interviews, puisqu'elle en donne beaucoup, mais que de son éducation catholique, elle a gardé cette idée de sauver. Alors, sauver quoi ? Eh bien, sauver ce qui a eu lieu, sauver... Alors, c'est la fin des années, sauver quelque chose de ce qui ne sera plus. Et ça commence par les parents, la place, une femme. Et puis, c'est après aussi sauver quelque chose de soi, de sa vie et du collectif absolu qu'on a formé.
Mais de son éducation catholique, elle a aussi gardé... très profondément, la culpabilité quand même. C'est terrible, parce qu'elle a été élevée dans un établissement privé, catholique. Ensuite, même, elle a été chez des religieuses. Je veux dire, ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Et sans être elle-même religieuse ou croyante ou pratiquante, enfin, elle n'en parle pas, de toute façon, cette éducation ressort fortement dans tous ses livres. Elle en parle partout, elle en parle tout le temps. Dire qu'elle n'en est pas sortie de la honte. Lié toujours, c'est ça qui me frappe, c'est que on aurait pu imaginer qu'en écrivant ses premiers livres, ça allait agir comme, entre guillemets, une sorte d'autothérapie, mais pas du tout. Parce que aujourd'hui, 50 ans après, on a l'impression qu'elle en est toujours là. C'est ça qui me frappe.
C'est vrai. Mais alors, là, justement, je voudrais peut-être aller un peu plus loin dans l'exploration de ce sentiment de honte et même de trahison qui est le sien. Elle dit, par exemple, à propos de son père, « Ses mots et ses idées n'avaient pas cours dans les salles de français ou de philo, les séjours à canapé de velours rouge, des amis de classe. » Elle dit ceci, « Je me suis plié au désir du monde où je vis, qui s'efforce de vous faire oublier les souvenirs du monde d'en bas, comme si c'était quelque chose de mauvais goût. » Et elle parle enfin, dans les dernières pages de La Place, « J'ai fini de mettre au jour l'héritage que j'ai dû déposer au seuil du monde bourgeois et cultivé quand j'y suis entré. » Et c'est comme si la culture non seulement avait introduit une distance entre le monde de ses parents et le sien, mais elle avait obligé à répudier ce monde. Et elle en veut à la culture, justement, d'avoir fait ça. D'où cette expression, j'écris pour venger ma race. Pierre Assouline, vous voulez intervenir.
Ma race, ma classe.
Ma classe, oui.
En l'espèce. Mais je crois qu'à ce point-là de la conversation, il est important, pour elle comme pour tout écrivain, quand même de revenir à ses lectures, aux écrivains qui l'ont formée. Et qu'elle revendique comme des maîtres formateurs. Alors, il y a eu Sartre, qui a eu une influence considérable sur elle. Alors, elle cite une trilogie en raison de leur violence même, c'est-à-dire Jean Genet, Antonin Artaud et Céline, pour leur violence. Quand elle cite Proust, moi, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de mal à croire à son côté proustien. Il y a eu une émission récemment.
Ah, bah oui, mais de toute façon, elle dit du mal de Proust.
Oui,
à chaque fois qu'elle en parle,
et en même temps, elle revendique, et en même temps, elle réduit La Recherche du Temps Perdu à un conflit dominant-dominé. Donc, Proust, oublions. Il y a eu Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, qui a été fondateur. Et puis, on oublie très souvent, parce que ce n'est pas un écrivain au sens propre du terme, au sens littéraire du terme, mais il a eu une importance énorme par ses livres, c'est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, vous avez parlé de l'héritage et des héritiers. Eh ben, la reproduction, les héritiers et surtout la misère du monde, pour elle, je veux dire, on retrouve ça dans tout ce qu'elle dit, dans toutes ses interviews et évidemment dans ses livres.
Oui, elle parle de la... Elle cite Pierre Bourdieu à propos de l'excès de mémoire des dominés, et que c'est depuis cet excès de mémoire qu'elle écrit. C'est-à-dire oui, ce réservoir jamais éteint de souvenirs de honte, de violence sociale et d'humiliation.
Pour elle, la misère du monde a produit sur elle un choc ontologique. C'est ce qu'elle dit elle-même.
Oui, alors, sur Proust, quand elle en parle, elle est très sévère. Elle dit ceci dans La Place. Proust relevait avec ravissement les incorrections et les mots anciens de Françoise. Seule l'esthétique lui importe, parce que Françoise est sa bonne et non sa mère, que lui-même n'a jamais senti ses tourments lui venir aux lèvres spontanément. Et à un autre moment, elle parle de Proust en termes plutôt critiques. Mais vous avez cité Bourdieu. Et là, moi, je voudrais avancer le nom d'un autre sociologue qui n'a malheureusement pas eu d'héritage en France, Richard Hogarth. Vous voyez peut-être qui c'est. 33 Newport Street, autobiographie d'un intellectuel issu des classes populaires anglaises. Richard Hogarth est né et a grandi à Leeds. Et le titre original, c'est « A Local Habitation ». Donc il a connu une enfance à la Annie Ernaux. Et puis il est allé au lycée. Et au lycée, quelque chose s'est passé. Il a accédé à la culture. La culture a élargi son monde. Et il dit ceci, un changement s'est produit. Quand vous accédez à la culture, vous pouvez faire la paix à votre culture d'origine. Vous pouvez apprendre à être jusqu'à un certain point à l'aise avec elle. Vous pouvez en venir à la respecter, mais vous ne pouvez plus en être l'indigène à part entière. Et ce n'est pas à regretter, vous avez goûté le fruit défendu. Et il se dit, dans le monde où je vivais, ce monde était, si vous voulez, simplifié, réduit. Il parle de la routine du langage grossier, des réactions bornées aux positions politiques simplifiées, présentées par la plus grande partie de la presse populaire, et colporté dans le groupe. Et dit, voilà à quoi vous avez eu la chance et l'énergie d'échapper. Un macaroni inépuisable d'informations fragmentées et idiotes, mijotant dans un bouillon tiède d'opinions reçues. Alors il dit, ce macaroni n'a pas empêché les gens de parvenir à une sorte de sagesse qui leur est propre, la common decency, comme disait Orwell, mais il a eu la chance d'y échapper et le livre est plein de références littéraires qui l'aident à éclairer son propre monde. Donc il manifeste un sentiment de gratitude vis-à-vis de la culture qui a élargi son esprit. Avec Annie Ernaux, il se passe tout autre chose. Elle en veut au monde cultivé, justement, du rejet, du mépris dont celui-ci ferait preuve à l'égard du monde dont elle vient. Donc elle est pleine non pas de gratitude, mais de ressentiment. Un ressentiment qu'elle voit s'exprimer chez Bourdieu. Et moi, je me dis qu'il est vraiment dommage que les sciences sociales en France aient suivi l'exemple de Bourdieu, hein, goût des livres comme des goûts des pauvres, au lieu de choisir la voie de Richard Hogarth. Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'une forme de ressentiment inexpiable chez Annie Ernaux. Et d'ailleurs, j'en terminerai, excusez-moi d'avoir été un peu long, un jour Philippe Ridet, du Monde Magazine, m'a téléphoné, me dit « Je fais un article sur Annie Ernaux, qu'est-ce que vous en pensez ?» etc. Je dis l'impression qu'on produit sur moi ses premiers livres, mais je dis « Ce qui manque chez elle, c'est la gratitude. » Il l'interroge en disant « Voilà, il a dit ça, Fingalgro. » Et elle répond en s'énervant. Elle se met en colère. « Non, je n'ai pas de gratitude. » Quelle gratitude? Surtout pas de gratitude. Moi, je trouve que c'est dommage. Excusez-moi d'avoir été trop long. Raphaël Léris.
Je suis toujours très ému par votre défense de la méritocratie. Mais en l'occurrence, je ne suis pas là pour faire la psychanalyse d'Annie Ernaux, mais c'est d'abord à son propre égard. C'est le mépris qu'elle-même, une fois arrivée au beau langage, aux bonnes études, c'est ce regard méprisant qu'elle a pu à un moment donné porter sur ses parents qui nourrit et la honte et le processus de culpabilité, oui, l'écriture. Donc vrai. Voilà, pour ma part, j'aurais pas précisé.
Pierre Assouline.
Je pense qu'Annie Ernaux, c'est la dernière personne à qui vous pouvez demander de la gratitude. Mais parce que demander de la gratitude, c'est justement recommencer cette situation dominant-dominée qui est son prisme exclusif de la vision du monde.
Et c'est pas un peu dommage?
Ben, oui, c'est dommage, mais je suis d'accord, parce que moi, je suis pour la reconnaissance de dette permanente à ceux qui nous ont formés, que ce soit les maîtres de l'école, que ce soit les grands professeurs, et que ce soit surtout les écrivains qui nous ont rendus écrivains. Donc, je suis pour la gratitude, bien sûr, mais ce n'est pas son cas. Ce n'est pas son cas, parce que tel que vous lui demandez, vous, Alain Finkielkraut, vous vous positionnez comme un dominant. C'est ça qu'elle ressent. Ben oui.
Ben oui, enfin, ben oui. Moi, je viens d'où je viens aussi.
Oui,
si
mais
vous
on vient tous.
Je suis un enfant d'immigré.
Oui, mais
j'étais dans une école élémentaire de la rue des Récollets à Paris, et je dois beaucoup de choses à l'école, et elle doit aussi beaucoup de choses à l'école. Elle doit beaucoup de choses à la langue française, à la culture française. Pourquoi ne le reconnaît-elle pas? Et vous dites dominant, dominé. Mais là, je reviens à ma première question, parce que on peut dire que le monde d'Annie Ernaux est exclusivement son monde. Ses parents d'abord, elle dit ce qu'elle aime, sans pour autant les statufier, bien entendu, notamment le père, puisqu'elle revient dans la honte sur le père. Elle n'a pas dit qu'un jour, dans la place, il a voulu tuer sa mère, et c'est la première phrase, ou l'une des premières phrases de la honte. Mais ensuite, c'est elle-même, Une passion simple et d'autres livres, L'événement, etc. Et l'élargissement chez elle se produit sous la forme de la généralisation. C'est-à-dire, c'est pas seulement elle, Annie Ernaux, c'est les femmes. C'est pas seulement ses parents, c'est les dominés. Mais la généralisation, qu'est-ce que ça a à voir avec la littérature?
Parce que c'est une vision binaire. Elle a une vision binaire en toute chose.
C'est pas la littérature, la vision binaire.
Et non, mais c'est quand même un état d'esprit. On en parlera à propos de la politique. Mais cet état d'esprit-là, malheureusement, je trouve, amoindrit sa sensation du monde. Parce que vous avez, comme vous savez, des écrivains qui ont une vision du monde, Thomas Mann, par exemple, et puis d'autres qui ont une sensation du monde, comme Proust, on l'a cité, mais Virginia Woolf. Et je trouve que c'est plus intéressant de rappeler Virginia Woolf plutôt que Proust à propos d'Annie Ernaux, parce qu'il y a des parentés, et souvent elle a dressé elle-même des parentés avec l'œuvre de Virginia Woolf. Les années est un titre de Virginia Woolf, The Years, comme par hasard.
Raphaël Léris.
Alors, je ne suis pas sûre de ce dont vous parlez en mentionnant la généralisation qu'elle pratique, parce qu'elle ne la pratique pas, de mon point de vue, dans ses textes. Elle le pratique dans son discours, ni dans Une femme, ni dans Passion simple, ni dans L'événement, ni où que ce soit. Elle ne sort de l'élucidation de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle raconte. Donc, de mon point de vue, ce qui les rend aussi puissants, ces textes, c'est que c'est une expérience qui se dit en tant que telle, et je ne crois vraiment pas que dans ces livres, elle monte en généralité. Alors après, voilà, il y a le discours qu'elle peut porter dessus ou qui peut être porté dessus. Mais pour moi, la force de ces textes, c'est justement que c'est une subjectivité qui s'exerce.
Mais diriez-vous, comme Michel Perrault, par exemple Raphaël Léris, que Annie Ernaux est une écrivaine? J'arrive pas à me faire écrivaine, mais bon. Diriez-vous qu'elle est une écrivaine féministe?
Elle l'est au sens où elle a fait entrer le corps féminin dans ce qu'il avait de moins reconnu comme noble et comme objet littéraire. Elle l'a fait entrer dans le champ littéraire. Elle lui a donné une place, une noblesse, ou pas forcément une noblesse. En tout cas, elle en a fait un sujet. Donc, s'il y a quelque chose de
vous
féministe là-dedans,
de quel livre en disant cela?
Mais dès Les armoires vides, raconter l'expérience de l'avortement, être ce corps avec les pieds sur les étriers qui se tord de douleur, c'est une expérience féminine que quoi qu'on en fasse. Donc c'est évidemment que c'est féministe de dire oui, cette expérience-là qui est honteuse, puisque c'est un avortement clandestin qui se fait dans des conditions épouvantables, ça mérite d'être traité en objet littéraire. Évidemment que c'est féministe.
En même temps, dire qu'elle est féministe, c'est l'enfermer dans un carcan, dans quelque chose, dans un cercle qui ne lui va pas. Et je pense que très souvent, elle l'a récusé dans ses interviews, tout en ayant des positions, entre guillemets, féministes. Elle l'a récusé d'appartenir ou même au néo-féminisme, etc., parce que c'est un électron libre. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante, Annie Ernaux. Ce n'est pas la première femme qui fait entrer le corps féminin dans la littérature, mais la façon dont elle le fait en électron libre, en se revendiquant d'aucune école, même s'il y a des influences, évidemment.
Mais elle disait d'ailleurs que après Les armes vides, disons ses premiers livres, qu'elle n'était pas assez féministe pour le MLF et qu'elle l'était trop pour les autres, et que c'était une position inconfortable, mais que c'était la sienne.
Mais c'est ça qui la rend intéressante, justement.
Et puisque vous parlez du corps, qu'avez-vous pensé d'Une passion simple, le livre où elle raconte son histoire d'amour avec un homme dont elle ne donne que les initiales du prénom A, dont on apprend dans le cours du livre, qu'il est russe. Est-ce que ça vous paraît être un livre important, Raphaël Léris?
Alors, j'ai peut-être un point de vue un peu biaisé sur ce texte, que j'ai peut-être lu trop jeune, parce que moi, ce qui m'intéresse d'abord dans Passion simple, c'est sa lecture en regard du journal qui retrace ses années, Se perdre. Et c'est de voir aussi comment le jour qu'on lit dans Se perdre se transforme en texte dans Passion simple. Et on voit comment, et bien sûr qu'elle écrit, et que ça n'est pas le premier mot qui vient, qui apparaît. Voilà, je lis ces textes avec ce biais-là.
À tous ceux qui pensent que Annie Ernaux est une écrivaine pour femmes, on ne saurait trop conseiller la lecture de Passion simple. Parce que là, il verrait bien une chose qui est permanente dans son œuvre, mais surtout dans ce livre-là, c'est que c'est une amoureuse. C'est une femme qui aime les hommes dès le départ. Et quand elle parle de sa vie, parce qu'elle parle beaucoup quand même de sa vie dans les interviews, elle n'est pas trop secrète sur ce plan-là. Très vite, on s'en rend compte que dès l'âge de 18 ans, il y a cette attirance pour les hommes, même si dans l'influence du deuxième sexe de Beauvoir, il y a cette idée que toute pénétration est un viol, parce qu'elle revendique ça aussi. Elle est tout le temps à la recherche de l'homme qui la fera vibrer. Tout le temps. Et elle le dit avec des mots qui devraient faire réfléchir beaucoup d'hommes. C'est ça qui est intéressant.
Mais Paul Ricoeur parle quelque part des signes d'humanité déposés dans les œuvres de culture et il dit que serions-nous de l'amour et de la haine si ce n'avait été articulé par la littérature. Je voudrais savoir, selon vous, Annie Ernaux dans Passion simple, par-delà le témoignage de cette folie sexuelle et amoureuse, nous apprend quelque chose sur l'amour.
Mais c'est son grand sujet, l'amour. Oui. Avec la littérature, c'est indissociable. Je veux dire, si on parle de la littérature d'Annie Ernaux et de sa façon de la concevoir, de son absolu de la littérature, parce qu'elle écrit par rapport à un absolu, bien entendu, c'est indissociable de l'amour, non seulement tel qu'elle le voit, mais tel qu'elle le vit.
Il y a ce grand acte aussi qui est l'occupation, qui est une évocation du désir, de la jalousie, de la perte, qui est vraiment un texte fascinant. Et Passion simple comme l'occupation, lui ont valu des lecteurs masculins qui, d'un seul coup, avaient accès à quelque chose qui était vraiment de l'altérité, qui est le désir féminin exprimé de manière aussi directe et évidente.
Et c'est normal que ça touche des gens partout, parce qu'il faut quand même rappeler une chose qu'on n'a pas dite. Avant le Nobel, son œuvre est traduite en 37 langues. Je veux dire, ce n'est pas un hasard. Ce sont des livres, c'est une littérature qui est décodable par des gens de toutes conditions, mais surtout de toutes origines.
Bien. Eh bien, écoutez, 37 langues, en effet, c'est tout à fait, c'est très impressionnant. Mais venons-en maintenant aux engagements d'Annie Ernaux. Car son œuvre est aussi indissociable de ses engagements. D'ailleurs, elle l'en conçoit comme telle, puisque, à la réception du Nobel, elle a invité ses lecteurs à se rendre à la grande manifestation contre la vie chère organisée par Jean-Luc Mélenchon. Elle n'a pas dédié son prix Nobel à Salman Rushdie, ce qu'elle aurait pu faire, après tout. Elle n'a pas non plus appelé à la solidarité avec les femmes iraniennes. Elle a demandé à ce qu'on manifeste avec elle contre la vie chère. Et sur ses engagements, dans un très bel article, Raphaël Léris, Annie Ernaux, une Nobel dont le jeu dit l'expérience commune, vous êtes très, je dirais pas sévère, mais exhaustive. Vous parlez d'abord du texte qu'elle a dirigé contre Richard Millet, signataire d'un éloge littéraire d'Anders Breivik. Breivik, le 22 juillet 2011, a fait exploser une bombe à Oslo. Il s'est rendu ensuite par le ferry sur l'île d'Utøya.
Utøya.
Et il a tué 69 personnes. Richard Millet, dans ce texte, condamne à plusieurs reprises ses actes. D'un autre côté, il s'attarde sur la perfection formelle de ce geste. Mais bon, bref. Mais il y a autre chose, nous viendrons peut-être. En 2017, elle appose son nom sur un texte de soutien à la fondatrice du Parti des Indigènes de la République, Ouria Boutelja. Elle la soutient parce que elle avait été critiquée dans Le Monde par Jean Birnbaum. Un autre en faveur du socialiste Gérard Filoche, qui avait retweeté une caricature antisémite mettant en scène Emmanuel Macron. D'autres pétitions suivent pour le boycott de la saison culturelle France-Israël et le concours de l'Eurovision à Tel Aviv. Il y a quand même là, c'est l'extrême gauche, mais il y a quelque chose d'obsessionnel qui donne à réfléchir. Alors, vous en avez dressé la liste. Quelles conclusions en tirez-vous, Raphaël Léris ?
Que les écrivains m'intéressent plus dans leur œuvre que dans leurs actions à côté. Et que l'être social et, heureusement, l'écrivain sont des personnalités très différentes.
Voilà. Pas tant que ça. Pas tant que ça pour moi. Pour moi, ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un à condition de ne jamais condamner une œuvre en fonction des déclarations de l'écrivain en dehors de son œuvre. Mais ils ne font qu'un fondamentalement. Il n'y a pas deux Annie Ernaux. Et il y a une grande cohérence. Quand vous dites à Alain Finkielkraut qu'elle n'a pas soutenu Salman Rushdie, qu'elle n'a pas soutenu les femmes iraniennes, c'est très cohérent avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle déclare par ailleurs, et même avec son œuvre, finalement, du moins sa conception de la littérature. Elle n'est pas Charlie. Elle n'est pas du tout Charlie, d'ailleurs, elle l'a dit. Mais elle l'a dit. Donc, ça va avec le reste. Et pour moi, c'est à la fois très clair et c'est un mystère aussi. Je vous avoue que j'ai eu l'occasion de lui poser la question. dans un cadre privé, il n'y a pas longtemps, il y a un an et demi, je lui dis toute l'admiration que j'avais pour ce livre. Mais je lui dis, à part ça, je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez soutenir Jean-Luc Mélenchon. Bon, Mélenchon, c'est encore une histoire parce que il a passé des années à Yvetot, lui aussi. C'est la Yvetot Connection. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais Mélenchon, la France insoumise, les gilets jaunes, les antisionistes, etc., de manière inconditionnelle et systématique. Et je lui dis, je ne comprends pas. Et sa seule réponse, ça a été de me dire, jusqu'à mon dernier souffle, je vengerai ma race. Je lui dis, excusez-moi, je ne comprends pas ce que vous me dites. Quel rapport avec...
Et pourquoi veut-elle venger sa race du sionisme?
Mais c'est ça
quand même que je voudrais, alors là, je voudrais comprendre.
Moi, j'aimerais...
Parce que les dominants, je veux bien, mais pourquoi? Presque exclusivement
non,
les
sionistes? Pas presque, exclusivement. C'est-à-dire qu'elle peut s'exprimer en permanence sur la géopolitique, sur la politique internationale. Le monde ne manque pas de dictatures corrompues, sanguinaires, tyranniques. Elle trouve la seule démocratie du Proche-Orient sur laquelle s'acharner en permanence. C'est tout le problème du BDS, le mouvement de boycott d'Israël, qui ne songe pas un seul instant à boycotter d'autres pays. Non, c'est uniquement celui-là. Eh bien, moi, ça m'interroge, ça m'interpelle. Et j'ai envie, je me disais, si un jour il y avait une enquête à faire sur son point de vue là-dessus, je pense qu'il faudrait retourner au café épicerie d'Yvetot et se demander quel genre de conversation il y avait dans ce café dans les années 50. Il y a un fond de sauce raciste, parce que pour moi c'est du racisme, là-dedans, qui demande à être exploré.
Il y a aussi l'effet d'une génération. Enfin, les tiers-mondistes des années 70 avaient ce point de fixation sur la question palestinienne.
Non. Ah, ben non, il y avait le comité Vietnam de base, il y avait beaucoup d'autres causes, justement. Il y avait bien d'autres causes. Chez Annie Ernaux, il n'y en a qu'une, comme par hasard. Moi, je trouve que ça interroge.
Oui, non, alors parce que vous aviez la gentillesse de citer mon article en disant qu'il était exhaustif, il ne l'est pas du tout, parce qu'il y a les textes « Vauguer nos morts », par exemple sur le terrorisme, qui est un sujet qui n'est pas le sionisme, elle a un point de vue alors vraiment très tiers-mondiste des années 70, où au nom du pétrole, on finit par avoir des morts en France. Enfin, cette vision assez confuse.
Mais ça va même plus loin, parce que on a cité donc les gilets jaunes, la France insoumise, tout ça, mais ça va plus loin. Quand elle se prononce sur le voile et toute la polémique qu'il y a autour, ce qu'elle dit, c'est quelque chose quand même, pardonnez-moi, mais de primaire. Je vous renvoie à une lecture vraiment passionnante, fondamentale, qu'on n'a pas citée. C'est le cahier de Lerne, Annie Ernaux, qui est paru récemment. Il y a beaucoup de choses dans ce cahier de Lerne, notamment des textes d'elle, remarquables, des extraits de son journal inédit. Et notamment, elle dit ceci, « Je suis pour qu'on laisse la religion musulmane tranquille ». Comme si c'était ça le sujet, comme si c'était ça le problème.
Alors c'est quand même, en effet, mais c'est très intéressant. Je voudrais revenir au cas Richard Millet. Vous dites d'abord, Raphaël Héris, il faut savoir distinguer l'œuvre des engagements. Est-ce que le Nobel le fait? Il ne le fait jamais. Donc peut-être aussi récompense-t-il ses engagements. Mais surtout, les engagements sont très présents dans un livre qui a des aspects remarquables, Les années, où elle a voulu, comme elle le dit elle-même, reconstituer un temps commun. Simplement, quelquefois, elle dit non pour des positions qui sont les siennes. Et surtout, le 11 septembre, elle reproche à Richard Millet son esthétisme, en effet, assez désolant. Il condamne Anders Breivik, sans aucune ambiguïté. D'un autre côté, il parle, je l'ai dit, de la perfection formelle de son axe, la littérature et le mal. Pour moi, je n'aime pas tout ce bazar. Mais cela étant, est-ce qu'il fallait vraiment que 128 écrivains réclament son exclusion de Gallimard? Cette mobilisation me paraît d'assez mauvais aloi. Mais surtout, elle parle du 11 septembre dans les années. Et dans les années, elle cite l'article de Jean-Marie Campagny, « Nous sommes tous américains », un article qui la choque. Pourquoi? Parce que quelques individus fanatisés venus de pays obscurantis, juste armés de cutters, avaient rasé en moins de 2 heures les symboles de la puissance américaine. Le prodige de l'exploit émerveillait. Et on se souvenait d'un autre 11 septembre, et de l'assassinat d'Allende, le prodige de l'exploit. Ça, il y a eu des milliers de morts, il n'y en a pas eu 69, et on les voyait se jeter dans le vide du haut du 60e étage ou 70e étage des Twin Towers. On avait ces images-là, le prodige de l'exploit émerveillait. Je pense que ce n'est pas, disons, plus acceptable que de trouver une perfection formelle au geste d'Anders Breivik. Et ça, c'est pas l'engagement hors de l'œuvre, c'est les années, Raphaël Leiris.
Alors, je me souviens de diverses tribunes assez désolantes intellectuellement, notamment, enfin, je me souviens de Jean Baudrillard.
Oui,
tenant des propos pas très loin de cela, exactement.
Tout à
donc,
fait.
Donc,
j'en étais très attristé quand il y a un penseur très important.
Et ben, finalement, ça raconte quelque chose de l'époque en question.
Ben oui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le condamner. Parce que moi, ce qui m'énerve, ce que vous avez lu, Alain, ça renvoie bizarrement à ce qu'avait écrit Virginie Despentes des frères Kouachi. C'est la même esthétique du mal, mais qui est pour moi totalement irresponsable. Et à propos de Richard Millet, je voudrais dire tout de même que je trouve que c'est une date dans l'histoire littéraire récente de la France. Hein, parce que c'est la première fois, depuis la libération et l'épuration surtout, qu'un écrivain lance un appel à lyncher un autre écrivain. Parce que ça a été du lynchage. À partir du moment où on exige, dans une pétition signée par une centaine d'écrivains, non seulement qu'il soit condamné moralement, mais qu'il soit finalement exclu de la maison d'édition où il travaillait, et ça a été fait, ça s'appelle du lynchage. Mais, oui, non, mais il n'a pas démissionné tout seul, on l'a poussé dehors, bien entendu. Je veux dire, et ça, je le dis d'autant plus librement que j'ai très souvent critiqué très âprement la plupart des livres. Je ne parle pas des romans qui sont remarquables, hein, mais des livres de plus contestables de Richard Millet. Je les ai critiqués et bon, n'empêche que là, je suis désolé, un écrivain se déshonore en signant une pétition appelant à lyncher un autre écrivain. Ce qu'on appelait pendant l'épuration « mort aux confrères ». Moi, ça me dégoûte.
En effet, 128 écrivains, je crois, ont signé cette pétition qui était d'autant plus étrange et disproportionnée que Richard Millet ne représentait aucune menace idéologique. On peut dire, tout d'un coup, c'est l'idéologie dominante. Tout d'un coup, tout le monde trouve quelque chose dans cet horrible attentat. Non. Et ce titre était suicidaire, en plus. Puisqu'il aurait pu, avec un autre titre, dire ce qu'il avait à dire. Donc, voilà, j'ai été moi-même étonné, mais j'en reviens à son livre « Les années », le livre d'Ariano. C'est très intéressant, parce qu'elle parle de Rushdie aussi. Elle parle de la condamnation à mort par l'imam Khomeini, Salman Rushdie, seulement coupable d'avoir offensé Mahomet dans son livre. Il dit que cette condamnation parcourait la surface de la Terre et nous ébahissait, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'un « nous », de reconstituer un temps commun. Il ouvre à ce moment-là une parenthèse très intéressante. Le pape aussi condamnait à mort en interdisant la capote, mais c'était des morts anonymes et différées. Et surtout, elle continue, Annie Ernaux, du coup, trois filles qui s'obstinaient à venir au collège avec un foulard sur la tête apparaissaient comme les fourrières de l'intégrisme musulman, obscurantiste et misogyne, fournissant enfin l'occasion de penser et de suggérer que les Arabes n'étaient pas des immigrés comme les autres. Est-ce que c'est ça qu'on avait à dire après l'affaire du collège de Creil? Et je me demande si Annie Ernaux aurait signé la pétition ou la tribune parue dans Le Monde et signée entre autres par Belinda Cannon, Mona Ouzouf et Michel Perrault, où elles disent que le hijab a été glorifié en Occident comme symbole d'identité culturelle ou de résistance au patriarcat post-colonial. Et elles ajoutent ceci, le voile est au pays des Mollahs comme partout, le symbole de l'oppression patriarcale qui affirme que le corps de la femme est impur et coupable, et c'est à ce titre que les Iraniennes le rejettent.
Elle n'est pas du tout dans cet esprit-là, ou même au contraire, puisque dans son journal inédit, dont on peut lire des extraits, elle, au contraire, elle dit, bah, le voile, après tout, bah, c'est comme les religieuses et la soutane. La loi de 1905 les a pas interdits. Pourquoi faire toute une histoire pour tout ça? Donc, il y a quelque chose chez elle de...
Parce que ça vient de l'opposition dominant-dominée.
Toujours. C'est-à-dire que pour elle, les musulmans, ce sont les humiliés.
Et les humiliés.
Permanents. Genre. Quand on pense à Ben Laden et à sa famille, on a un peu de mal, mais Ben Laden, entre autres, évidemment, c'est toujours cette vision binaire. Alors, quand on le lui reproche, elle dit, c'est vrai qu'on peut penser que je suis peut-être un peu naïve. Mais c'est pas de la naïveté. Comment être aussi intelligente dans son œuvre, aussi fine, avoir une telle capacité d'analyse sur les gens, sur la psychologie des gens, sur les rapports sociaux, etc., pour finir par avoir une vision aussi manichéenne et simpliste.
Raphaël Héris, moi, ma question, ce serait celle-ci. La littérature n'a-t-elle pas pour objet, pour rôle, de nous délivrer de la vision binaire du monde? Et donc, l'œuvre de Daniel Arnaud appartient à la grande littérature, et en même temps, elle renforce sa vision binaire. Est-ce que ça ne pose pas un problème?
Alors, les passages que vous avez cités des années ne constituent pas l'essentiel des années, ni l'essentiel de son œuvre. Un livre qui restitue une époque en restitue des opinions qui sont celles de l'auteur et qu'on ne partage pas, eh bien, pour moi, ça va contre la binarité. C'est-à-dire, la non-binarité, c'est que je suis capable de lire Annie Arnaud, d'être parfaitement en désaccord avec elle sur beaucoup de sujets, et par ailleurs, de faire mon miel de ce qui m'intéresse.
Moi, je voudrais citer deux choses, hein, pour mieux comprendre ce qu'elle est, et encore une fois, c'est dans le cahier de Lerne, cette phrase de son journal, « Ne rien faire comme tout le monde et vouloir que le monde accepte ce que je fais ». Ça, c'est tout à fait Annie Arnaud. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que, en fait, politiquement, Annie Arnaud, elle est née en 1789. Mais en disant cela, elle ajoute que pour elle, l'incarnation absolue de la Révolution, c'est Saint-Just. Elle se reconnaît dans la figure de Saint-Just, elle le proclame, mais le plus important, c'est que elle ajoute « Je suis tellement né en 1789 que l'Ancien Régime m'est totalement indifférent. » Or, on ne comprend rien à la Révolution si on barre l'Ancien Régime. Elle dit même qu'elle veut, en quelque sorte, effacer ce qui s'est passé avant. Je suis une passionnée du nouveau calendrier révolutionnaire parce qu'il avait le grand mérite d'effacer les années qui ont précédé, d'effacer le passé. Mais c'est une vision totalement ahistorique. La France ne commence pas en 89. Moi, ça me...
Et ça vous choque et en même temps, vous dites que c'est un très grand écrivain et qu'elle méritait amplement le prix Nobel.
Mais comme vous le savez, peut-être que vous le pensez, j'en sais rien... ce que Céline a déclaré et a écrit à un certain moment n'empêche pas que c'est un grand écrivain.
Et il n'aurait pas pu avoir le Nobel, quand même.
Ah non, ça, faut pas exagérer non plus.
Raphaël Héris.
Alors toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire mettre sur le même plan les textes collabos et au-delà de ça de Céline et les déclarations pour le moins maladroites et problématiques de Daniel Arnaud.
On cite Céline, mais il y en a d'autres. Hein.
Oui, non, mais donc on ne va pas non plus mettre sur le même plan.
Écoutez, si si vous voulez, pour mieux comprendre, moi je pense par exemple à Susan Sontag. Je viens de finir de lire sa biographie qui vient de paraître en français par Benjamin Moser, qui est passionnante et qui est assez critique, hein, tout en l'admirant. C'est ce que j'aime dans les biographies. Eh bien, il montre bien que Susan Sontag était une intellectuelle remarquable, une essayiste exceptionnelle sur la douleur, sur la photographie, sur la maladie,
oui,
métaphore.
Oui.
Bon, elle était remarquable. À côté de ça, elle était évidemment engagée, pétitionnaire permanente. Sur la guerre du Vietnam, elle s'est trompée. Mais sur la révolution culturelle chinoise, elle est passée complètement à côté. Sur un tas d'engagements politiques, elle est passée à côté parce qu'elle n'avait aucun sens politique. On peut être intelligent, on peut être un grand écrivain ou une grande écrivaine, ou une grande essayiste, et n'avoir aucun sens politique. Et chez Annie Arnaud, il y a de ça. Pour moi, il y a de ça. Je voudrais juste ajouter une chose. Il y a chez elle quelque chose, je pense, de l'influence de Sartre. Parce qu'elle elle a lu tout Sartre, etc. Le deuxième siècle de Beauvoir, bien sûr, mais Sartre. Eh bien, il y a un trait de caractère de Sartre dont elle a hérité. C'est qu'Annie Arnaud, politiquement, elle est bornée. Elle est bornée. On a beau lui expliquer, oui, lui dire, aussi... chercher la complexité dans les situations, elle est bornée. Et Sartre était un être borné lui aussi.
Oui, borné est génial. Mais d'un autre côté, comment concilier la littérature et cette passion de la réduction? C'est peut-être problématique. Vous dites aussi que son personnage historique préféré, c'est Saint-Just. Alors moi, j'ai rouvert ses livres pour préparer cette émission, notamment Passion simple. Je me suis rendu compte qu'elle me l'avait dédicacé en 1992.
Qu'à la conscience.
Pour Alain Finkielkraut, très cordialement, etc. Et je me dis que maintenant, elle me guillotinerait peut-être. Mais d'un autre côté, je retiens ses premiers livres. Et ce qu'elle dit sur ses parents, sur les rapports qu'elle avait avec ses parents, la rudesse, la hargne, la criaillerie constituaient les formes normales de la communication familiale. Et avec sa mère, nous nous adressions l'une à l'autre sur un ton de chamaillerie en toutes circonstances. Et d'un autre côté, cet amour éperdu qu'elle a pour sa mère, qu'elle recueille chez elle quand elle est veuve, et dont elle accompagne la lente détérioration quand elle a la maladie d'Alzheimer. Et tout ça, en effet, me semble très beau, très émouvant, très fort.
D'autant que sa mère a été une grande lectrice. Ce qui ne va pas de soi par rapport au milieu qu'elle décrit. Hein. Une grande lectrice qui lui a, je crois, influencé dans sa passion de la littérature.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Raphaël Léris et Pierre Assouline. Et c'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui, Romain Lukens. La semaine prochaine, l'émission sera consacrée à la révolution féministe. Mes invités seront Cynthia Fleury et Claude Habib. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.